chaque jour la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, on s'intéresse aujourd'hui à la femme rurale et demain d'ailleurs le monde va célébrer la journée internationale de la femme rurale. Vous savez, elle joue un rôle important au sein de la communauté, elle participe à la production agricole, fournit la nourriture, l'eau et les combustibles pour le foyer, elle prend soin des enfants, des malades et des personnes âgées, elle exerce d'autres activités pour améliorer le niveau de vie de la famille. Alors, qu'y faire pour la rendre autonome afin qu'elle contribue davantage au développement de sa communauté? On en parle avec Madame Brigitte Kanika Kapinga. Bonjour.
Bonjour Jordi.
Vous êtes experte en développement. Alors, qu'est-ce que la femme rurale? Comment est-ce qu'on peut l'autonomiser? Comment est-ce qu'elle peut contribuer au développement de sa communauté?
Merci pour l'invitation. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, la femme rurale, de par sa vocation d'agriculture, principalement, elle a un très grand rôle à jouer par rapport au développement de son milieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que 80% de la population vivant dans les milieux ruraux vit essentiellement de l'agriculture, dont la femme est responsable aussi à 80%. Donc, nous pouvons dire que c'est la femme qui fait vivre le milieu rural à 80%. Et par ricochet, le milieu urbain aussi, parce que c'est la production qui vient des milieux ruraux qui permet à ce que les gens qui vivent dans le milieu urbain puissent se nourrir. Et donc, cela vient du travail de la femme. Mais malheureusement, cette femme qui produit autant, cette femme qui produit à 80% de ce que nous consommons, surtout les produits vivriers, malheureusement, elle n'accède qu'à 5% des ressources.
Des ressources
5%
des ressources.
5% des ressources financières. Ce qui la rend dépendante, d'une manière ou d'une autre, dépendante de l'homme. L'homme qui continue à être le seul pourvoyeur des ressources financières. Je ne dis pas pourvoyeur de toutes les ressources dont bénéficie le ménage, mais plutôt des ressources financières. Pourquoi? Parce que la femme, quand bien même c'est elle qui produit, mais quand elle a produit, c'est l'homme qui récupère le produit de vente. Les produits de vente.
À l'argent. Quand elle vend,
d'abord, dès qu'on arrive au marché, ce que nous avons vécu pendant tout le temps que j'ai eu à travailler dans le milieu rural, ce que la femme, elle produit, elle amène le produit jusqu'au marché. Et dès qu'elle arrive au marché, l'homme est là à ses côtés, en train de superviser la vente. Et dès qu'elle vend, c'est l'homme qui récupère le produit de la vente.
L'argent.
Et pourquoi? Et au finish, c'est comme ça que le milieu vit. Ce qui fait que il ne rétrocède
peut-être
à la femme
c'est
que
lui le caissier de la famille.
Pas évident. Ce n'est pas lui le caissier, mais plutôt c'est lui qui dépense l'argent. C'est ça la différence. Et il ne dépense pas toujours pour le bien du ménage. Et donc les 5% que la femme peut avoir, ce sont les 5% qui va servir aussi aux besoins à 80% de besoins du foyer, ce qui la rend vulnérable. Et donc, c'est comme ça que vous allez constater que dans le milieu tant urbain que dans les milieux ruraux, les femmes sont les plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas de ressources financières. Et quand vous le savez, avoir accès aux ressources financières vous donne aussi une certaine puissance. Celui qui a l'argent, il a la force. Et donc, la femme n'ayant pas accès aux ressources financières, n'ayant pas accès aussi à la terre, n'étant pas propriétaire de biens immobiliers, cela la rend vulnérable et lui fait qu'elle n'a pas voix au chapitre. Elle accède un tout petit peu, pas vraiment, à la prise de décision et à la planification. Et c'est ce qui la rend encore plus vulnérable. Et donc, je me dis que la femme, lorsqu'elle est économiquement et socialement autonome, elle devient un puissant vecteur du développement de son milieu. Ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui et ce qui fait que la femme, elle est vraiment marginalisée, surtout dans les milieux ruraux.
Et pourtant, c'est elle qui fait presque tout.
Absolument.
Elle va chercher
la répartition des tâches, nous allons remarquer que la femme, dans la journée, je ne dirais même pas dans la journée, mettons dans la semaine, elle travaille 6 jours sur 7. Tandis que l'homme, dans le milieu rural, je dis bien, tandis que l'homme peut travailler une journée sur les 7. Je m'explique. Vous allez constater que dans le milieu rural, où nous avons dit tout à l'heure que la femme vit, les populations vivent essentiellement de l'agriculture, c'est la femme qui fait beaucoup plus de travaux de champs. L'homme, il fait beaucoup les gros travaux.
L'homme va à la chasse. Il va à la chasse.
Il peut aller à la chasse. Ouais. Mais là, nous nous focalisons uniquement aux travaux de champs.
Oui.
Parce que la chasse, c'est vraiment un nombre assez limité de population. Mais par contre, l'agriculture, c'est 80% de la population qui le fait, si pas 100% dans les milieux ruraux. Il y a 20% seulement qui ont l'agriculture comme activité secondaire, mais tous font l'agriculture.
Mais la femme va au champ avec son mari, ils travaillent ensemble
femme,
là, au niveau du
pas,
champ.
Pas essentiellement. Pas essentiellement. Le mari va au champ avec la femme quand il s'agit des gros travaux. Par exemple, défricher les champs, l'abattage et tout ça. Les gros travaux, ce sont le mari qui les font. Mmh. Mais à partir du moment où ils ont fait les gros travaux, et cela, ça peut se faire peut-être une fois tous les deux mois ou tous les trois mois. Et tout le reste du travail, c'est la femme qui fait. Le mari reviendra encore avec la femme au champ, peut-être quand il s'agira, bon, surtout ceux qui font le palmier à huile, quand il s'agira maintenant d'aller récolter le fruit, tellement les arbres sont très longs, ça c'est le travail des hommes. Donc si nous pouvons faire la répartition des tâches, vous allez voir que le travail de l'homme se limite seulement à 10% de toutes les activités champêtres qu'un foyer peut mener. Et le 90%, c'est la femme qui le fait. Et donc, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps pour participer aux activités communautaires, telles que participer aux réunions, participer à la prise des décisions. Elle n'a pas ce temps-là. Parce que non seulement elle doit faire les champs, elle doit aussi se préparer pour... Elle doit aussi aller faire la cuisine, préparer les aliments pour
enfants,
la maison,
oui.
S'occuper de la maison, s'occuper des enfants qui vont aller à l'école s'il y en a. Et donc, pratiquement tous les travaux ménagers, c'est elle qui doit faire. Elle doit apporter de l'eau pour le foyer, si elle n'a pas de grands enfants pour le faire. Et donc, vous vous rendrez compte qu'au final, la femme n'a pas le temps de s'occuper des activités communautaire. Et pourtant, c'est là où il y a la prise de décision. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que dans les milieux ruraux, les femmes sont presque absentes dans la prise de décision. Mais ce qui n'est pas toujours évident dans le milieu de pygmées. Ça, c'est un milieu qui m'a beaucoup impressionné.
Comment ça se passe? Vous avez visité les pygmées?
Oui, je viens de là il y a exactement 2 semaines.
C'était où?
C'était dans le parc de Kahuzi-Biega à Bukavu,
okay.
Où je suis allée travailler avec le pygmée. Et là, j'ai constaté et que c'est plutôt les femmes qui ont voix au chapitre. Donc ce sont les femmes qui prennent la parole. Quand il s'agit des grandes réunions, d'abord la participation de femmes, elle est assez élevée plus que les hommes. Et quand vous
alors
discutez,
là, le genre n'est pas respecté.
Au contraire, c'est là où c'est respecté. Au contraire, c'est là où le genre est respecté. Et moi, je me dis que ça pouvait être un modèle. Et c'est pour cela que vous allez voir. Quand vous discutez avec les populations autochtones, vous allez sentir que les femmes ont beaucoup plus de vision. Elles ont beaucoup plus de, comment je peux dire, des visions de changement que les hommes. Et c'est elles qui prennent la parole et elles vous disent, voilà nos problèmes, voilà les pistes et des solutions, voilà ce que nous voulons. Tandis que les hommes accompagnent les femmes. Et ça, j'ai trouvé que c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Mmh. Et c'est un modèle qui peut
aider. Et qu'est-ce qui a fait que ces femmes pygmées en arrivent là?
Bon, ce qui a fait cela, je ne sais pas. Peut-être, c'est parce que la femme pygmée n'est pas aussi chargée que la femme communauté locale,
oui.
Les autres membres de communauté locale. Pourquoi? Parce que d'abord, les populations autochtones ne font pas les champs. Parce qu'ils ne vivent que de la cueillette,
de la chasse,
de la pêche. Et ce sont les activités qui sont faites par les hommes. Vous comprenez un peu la différence. Et donc, les travaux lourds tels que le champ et tout ça, pratiquement toute la journée de la femme, elle est libre. Et elle peut, c'est vrai qu'elle doit s'occuper de ménage, elle doit faire le... Encore que le ménage, il n'y a pas. parce que les habitations sont tellement rudimentaires qu'ils n'ont pas grand chose à faire. Elle doit s'occuper juste peut-être de préparer la nourriture, d'épuiser de l'eau, de s'occuper des enfants, mais le reste du temps, elle est libre. Et donc, elle a le temps de réfléchir, elle a le temps de discuter avec les autres, et elle a le temps d'observer comment la communauté est en train d'évoluer et d'avoir des idées et de mûrir les idées. Mmh. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. C'était vraiment génial parce que vous sentez que cette femme-là, elle a les idées pour le changement. Et quand vous devez discuter avec elle sur la réalité de leur milieu, sur leur avenir, vous sentez que ce sont les femmes qui vous donnent le plus de solutions.
Bien. Je reviens à vous dans quelques instants, Madame Brigitte. Comment la femme rurale peut-elle contribuer au développement? Cédric nous appelle des Calémis dans la province du Katanga. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081 890 63 94. Voilà. On va accueillir Cédric qui est en ligne. Bonjour Cédric.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à Adam l'invité, aussi à tous les auditeurs qui nous suivent.
Vous êtes
je suis à Calémis, oui.
Oui, allez-y.
Ma première question, je dis, d'abord je voulais remercier à la dame qui intervient pour ce qui cadre avec la contribution de la femme rurale par rapport à l'agriculture. Merci. Et donc, ma première question est que, quel est le conseil que la dame peut nous donner à toutes les femmes rurales ne veulent pas s'adonner à l'agriculture par le fait que cette dernière contribue à 80% sur les domaines agricoles. Ça, c'est la première question. Et donc, de deux, la dame nous a encore parlé que la femme rurale travaille 6 jours sur 7 par semaine et l'homme ne fait que travailler 1 jour sur 7. Et donc, je voulais avoir un peu d'explication, comment est-ce que la femme rurale peut travailler 6 jours sur 7, tandis que l'homme, à son tour, ne travaille que 1 jour sur 7, j'ai dit. Ce sont mes deux questions, merci, et bonne suite de programme sur les antennes de la radio.
Bien, merci, Madame Brigitte, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Cédric. Concernant la première question, peut-être que je l'ai mal captée, parce que nous avions dit que la femme, elle travaille dans le milieu rural. Les gens vivent à 80% avec le produit, avec l'agriculture, avec le produit des champs. Et dans les 80%, c'est 80% de femmes qui y travaillent. Alors, j'ai pas compris quand il dit que la femme ne veut pas travailler dans l'agriculture.
Il dit quel conseil donner à celles-là qui ne veulent pas travailler. Parce que lui, il voudrait peut-être que ce soit 100% des femmes qui s'adonnent aux travaux champêtres.
Quand nous avons dit 80% qui s'adonnent aux travaux, le 20, aux travaux champêtres, le 20 qui font d'autres activités. Il y a par exemple ceux qui sont marailleuses, c'est-à-dire qui vendent le poisson. Il y a ceux qui font les petits commerces. Mais ce que nous devons savoir, c'est que toute la femme rurale, même si elle a d'autres activités, par exemple, elle peut être commerçante, elle peut être marailleuse, mais cela ne l'empêche pas d'avoir un champ comme activité secondaire, même si son activité principale n'est pas les champs. Donc, je doute fort qu'il y ait des femmes dans le milieu rural qui ne veulent pas faire les champs. Je doute très fort. Peut-être elles le font comme activité secondaire et non comme activité principale. Par rapport à l'explication pour le travail de l'homme qui fait un jour sur sept,
et la
femme qui fait six jours sur sept, je crois bien que j'ai expliqué. J'ai bien dit que l'homme ne fait que les travaux, les gros travaux. Par exemple, l'abattage des arbres, le défrichement des champs, quand on a acquis un nouveau champ et qu'il faut aller les défricher, il faut abattre les gros arbres. Il faut, par exemple, pour ceux qui font le palmier à huile, monter, grimper sur les arbres pour aller cueillir le fruit. Ça, c'est le travail des hommes. Tandis que les autres travaillent, le labour, le sarclage, la récolte, l'arrosage, ce sont les femmes qui les font. Mais dans la récolte, les hommes aussi interviennent. Ça dépend de quel genre de produit de récolte. Là, les hommes interviennent. Et donc, si vous regardez, pour un produit qui a une durée de 6 mois, donc l'homme aura contribué au début et à la fin du produit. Donc le premier mois et les derniers mois. Tandis que les 4 mois qui sont au milieu, c'est la femme qui a travaillé. Et c'est pour cela que j'ai dit...
C'est un frein au développement de la femme.
C'est aussi un frein parce qu'au finish, la femme n'a pas le temps de faire autre chose. Donc, elle est 7 jours sur 7 au champ, disons 6 jours sur 7, parce que la femme rurale, je sais très bien que les dimanches, elle s'occupe quand même de... Elles vont à l'église.
Oui.
Et donc, au moins 6 jours sur 7, elle est au champ. Et elle y va à 5 heures du matin pour revenir à la maison 16h, 17h. Et quand elle arrive à la maison, ce n'est pas pour se reposer.
Mais déjà,
elle doit commencer déjà à faire la cuisine.
Le travail qu'elle fait là, est-ce qu'elle ne contribue pas déjà au développement de sa communauté?
Bien sûr qu'elle contribue. Elle contribue d'une manière qui n'est pas rémunérée. C'est ça le gros du problème. Parce que le travail qu'elle fait, elle n'est pas reconnue. La femme n'est pas reconnue. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mmh. Et le combat que les gens mènent aujourd'hui, c'est pour que ce travail-là soit reconnu comme un travail, comme tout autre travail qui contribue au développement
de
la communauté.
Qu'elle soit autonomisée.
Oui, et qu'elle ait droit au chapitre.
D'accord.
Qu'elle ait aussi la voix dans la conduite des activités communautaires. Et
bien.
C'est ça le gros du problème.
On va accueillir Mme Charlie Kavira, elle nous appelle des Dungu, en province orientale.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Comment la femme rurale peut-elle contribuer au développement de sa communauté? Madame Charlie Kavira, vous êtes à Dungu, en province orientale. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Monsieur Okapi.
On vous écoute.
Oui, merci. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi et à notre invité du jour.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Oui, c'était par rapport, pour appuyer notre invitée, là où elle a dit que les femmes rurales, ce sont elles qui produisent l'alimentation à la famille, et puis ce sont les hommes qui s'occupent de la supervision des ventes, et surtout de la dépense de l'argent. Drôle que tout l'argent ne satisfait pas pour les besoins de la famille entière. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ici chez nous, en milieu rural de Dungu. Et ma préoccupation, c'était si, par rapport à la journée de demain que nous allons célébrer, comme j'ai dit avant que je suis la coordonnatrice d'une ASBL féminine, nous avons organisé des manifestations par rapport à la journée de demain. Je pense que le thème, si je ne me trompe pas, c'est l'autonomisation des femmes pour éradiquer la faim et la pauvreté. Notre question est de savoir, nous, femmes de rurales de Dungu, nous sommes en train de travailler dans un circuit qui est fermé. Nous n'avons pas accès à la communication. Nous n'avons pas accès à la connexion même Internet. Nous n'avons pas accès aux intrants. Nous n'avons pas accès aux semences améliorées. Comment nous pouvons faire pour que l'autonomisation des femmes soit vraiment une question de réalité à Dungu? Si l'invité du jour peut nous donner quelques stratégies, et puis s'il y a lieu, je peux aussi parler des manifestations que nous avons prévues pour demain.
Non, on n'a pas assez de temps. On va donner la parole à l'invité qui va répondre à vos préoccupations. Merci d'avoir appelé Madame Charlie. Madame Brigitte.
Merci beaucoup Madame Charlie pour votre témoignage et pour la question. En fait, comme nous avons eu à le dire, pour que les femmes arrivent à être réellement autonomes, il faudra d'abord qu'elles soient économiquement et socialement fortes. Tant qu'elles ne seront pas fortes, on ne pourra pas parler de l'autonomisation. Parce que qu'on le veuille ou pas, celui qui a l'argent, celui qui a le moyen, il est fort. Et malheureusement pour la femme rurale, jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt, elle reste économiquement très faible. Et donc, il faudra qu'on arrive à donner le moyen à cette femme, le moyen d'abord, les moyens de production. Le moyen de production pour que demain, elle puisse avoir les ressources financières assez suffisantes.
Mais est-ce que dans les milieux ruraux, il n'y a pas des structures qui accordent des microcrédits aux femmes pour développer leurs activités?
Peut-être que je vais vous étonner, mais je peux vous dire que les structures qui donnent le crédit aux femmes, même dans les grandes villes, vous allez vous étonner que ces structures-là ne donnent jamais plus de $200 maximum. Avec $200, qu'est-ce qu'on peut faire? Tandis que les hommes peuvent accéder au crédit dans d'autres milieux, au crédit des tracteurs, au crédit de 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Mais à la femme, on donne 100 dollars ou 200 dollars.
Et pourquoi?
C'est pour qu'elle fasse quoi
et
avec...
pourquoi on donne à la femme ce montant-là?
Mais justement, c'est ça la philosophie, parce qu'on dit on est presque riche. Étant donné que la femme est pauvre, on ne s'est pas prêté aux pauvres de pauvres. C'est ça le gros du problème. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec ce système-là de donner aux femmes 50 dollars, 100 dollars pour dire que non, on a donné du crédit pour que la femme puisse évoluer, qu'elle mène des activités économiques. C'est vrai, quand elle n'en a pas, elle va accepter ces 100 dollars. Mais la question que j'ai toujours posée, allez visiter ces femmes qui ont reçu ces 100 dollars. Qu'est-ce qu'elle a pu changer de sa vie par rapport à ces 100 dollars qu'elle a eu comme crédit? Rien de spécial. C'est un cercle vicieux, parce que les 100 dollars, elle doit retourner ça avec des intérêts. Et donc, elle doit travailler durement pour rembourser les 100 dollars et rembourser les intérêts. Est-ce qu'il n'arrange en rien sa condition de vie? Mais plutôt, si on pouvait permettre à ce que dans le milieu rural, que la femme accède aux outils de travail au même niveau que les hommes, qu'elle accède aussi à la terre, parce que ce que je veux vous dire ici, c'est que la femme dans le milieu rural, elle a accès à un tiers seulement de la superficie que les hommes ont accès, la superficie des terres, ce qui la rend encore moins performante que l'homme. Et avec ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile qu'on pense autonomie. Même pour la journée de la femme rurale, je me dis que ce n'est pas demain que ça va commencer. Il y a des années et des années. Mais moi, ce que je mérite, c'est qu'on fasse le bilan. Ce qu'on fasse le bilan par rapport à tous les slogans qu'on a eu à développer. Qu'est-ce qui a réellement changé dans la vie de la femme rurale depuis qu'on célèbre la journée de la femme rurale? C'est ça la grande question.
D'accord, on va accueillir Pierre de Manonon et Jolie de Kimpessé. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, attendez Jolie, on va accueillir d'abord Pierre. Pierre, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, moi je salue d'abord la démonstration de notre invité par rapport au sujet du jour. Néanmoins, j'ai des petites préoccupations. Et je sais que la situation de la femme rurale fait partie du système de gestion de la République démocratique du Congo qui est aussi complexe. Mais moi, je voudrais un peu sortir du cadre général parce que moi, je suis dans des milliers ruraux, mais aussi des petits milliers où la réalité est autre. Donc ici, les activités agricoles n'ont presque pas de place. Les gens vivent grâce à l'exploitation artisanale des minerais. Mais maintenant, je veux savoir quel conseil d'invité est-il donné aux femmes des milliers ruraux, aussi miniers, qui ne pratiquent pas l'agricole. Leur contribution fait partie de l'exploitation artisanale des minerais, parce qu'elles sont en majorité dans les carrières minières. Et aussi, ma deuxième préoccupation, bon, par rapport à ce qu'il a dit au nombre de tours, que l'homme peut aller une fois par semaine, la femme six fois par semaine. Bon, là, je me pose une question de savoir, parce que l'homme peut aller une fois, il abat un travail que la femme devrait abattre pendant 5 fois, par exemple. Est-ce que le problème se pose au nombre de tours ou à la quantité du travail exécuté? Voilà un peu ma préoccupation.
Bien, merci Pierre. Jolie de Kimpessé, bonjour.
Ouais, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, je vais vous demander de fermer votre radio, Jolie. Vous allez suivre la partie de votre téléphone, hein. C'est fait?
Oh, merci.
D'accord. Maintenant, allez-y. Oh,
non, j'ai pas encore fait.
D'accord. Si vous êtes à côté de votre radio, veillez l'éteindre, Jolie, vous allez suivre en partie du téléphone. Allez-y. Oh. Faites-le et posez votre question.
Bon, monsieur le journaliste.
Oui.
Bon, en tout cas, je suis satisfait aux aguets de suivre cette information de la radio Capi. Mais justement, je n'ai pas compris le sommaire de cette information. Donc, j'ai eu ça seulement au milieu. Donc, je n'ai pas compris. C'est pourquoi je voulais justement savoir quelle est la première question ou bien quel est le sujet de cette information pour que je puisse intervenir à ce cas.
D'accord. Je comprends. Jolie n'a pas suivi les débuts de l'émission. Il voudrait bien savoir de quoi on parle. Eh bien, on parle aujourd'hui de la femme rurale. Comment la rendre autonome pour qu'elle contribue davantage au développement de sa communauté. Voilà, c'est ça le thème du jour. Merci d'avoir appelé. Alors, Madame Brigitte, qu'est-ce que vous pouvez dire à Pierre?
C'est Pierre qui a posé la question de savoir la situation de la femme Il a dit que la situation de la femme rurale reflète la situation de la gestion générale du pays. Et ce que peut-être moi je pourrais dire à M. Pierre, c'est que la situation de la femme rurale n'est pas spécifique au niveau de la RDC. C'est pratiquement dans toute l'Afrique et dans tout le pays en voie de développement, vous allez trouver que les femmes vivent pratiquement la même situation. Donc ce n'est pas une situation particulière à la RDC. Par rapport à la question de savoir qu'est-ce que je peux dire aux femmes qui s'adonnent à l'exploitation artisanale de minerais.
Parce que là-bas, chez eux, il y a pas, les activités agricoles ne sont pas...
Mais la question que j'aimerais poser à Pierre, est-ce que dans le milieu où on fait l'exploitation artisanale de minerais, les gens ne mangent pas? Je crois que la réponse sera que les gens mangent. Parce que où que tu sois, qui que tu sois, tout être vivant a besoin de manger. Et moi, je me dis, le conseil que je donnerai à ces femmes-là, celles qui pratiquent l'agriculture, quand bien même, ça ne paye pas dans l'immédiat. Ce n'est pas comme le minerai où tu en as le matin à 10 heures, tu les as vendus. Mais celles qui font le champ, si on regarde très bien, elles auront beaucoup plus de moyens que celles qui font le minerai. Je m'explique. On connaît la période où, à un certain moment vers les années 90, il y avait le boom de Banalunda. Mais les gens, les commerçantes venaient acheter le frétin, les Ndakala qui venaient acheter au marché à $300, ils allaient revendre chez le Banalunda à $2000. Imaginez donc 10 fois plus que le prix d'achat.
En fait, il y a beaucoup de femmes dans les carrières, c'est pas, elles n'exploitent pas les minerais, mais elles viennent pour d'autres activités.
Oui, il y en a qui viennent pour d'autres activités.
Vendre ou certaines sont là peut-être pour...
Oui, mais ce que moi je leur conseillerais, je dirais à ces femmes-là de s'adonner à l'agriculture parce que ces hommes qui sont en train de faire tous ceux qui font le minerai, ils ont besoin de manger. Et d'ailleurs, ils mangent
d'ailleurs
beaucoup.
Qu'il y a même d'autres filles qui sont là pour se prostituer.
Malheureusement, ouais. C'est ça la réalité. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et pourtant, on n'a pas besoin de gagner.
Parce qu'elles n'ont pas
tout
de moyens,
maintenant.
Elles sont paupérisées. Elles se disent, bon, peut-être là-bas, parce
non,
qu'il y a,
ce n'est pas question d'être
mines,
paupérisée.
Il y a l'argent.
Ce n'est pas question d'être paupérisée, jeudi. C'est plutôt question de besoin de gains faciles. Tout de suite et maintenant. C'est ça le problème, c'est ça la différence. On n'a pas besoin de se prostituer pour avoir de moyens. Et malheureusement, celles qui se prostituent, quels moyens qu'elles ont de plus par rapport à ces femmes qui viennent vendre
de la nourriture
à tous ces créseurs. Et comme vous le savez, les créseurs, ils mangent beaucoup. Donc je me dis que la femme a beaucoup plus à faire son champ, à s'adonner aux activités agricoles pour gagner beaucoup plus. Et par rapport à la dernière question, nombre de tours que la femme peut faire en 5 jours, l'homme peut le faire en une journée. Je n'en disconviens pas. Parce que la force physique de l'homme n'est pas la même que la force physique de la femme. Mais cette activité-là qu'un homme pourra faire en une journée, et par rapport à la somme des activités que la femme fera pendant 6 mois, je crois qu'il n'y a pas match entre les deux. Je crois qu'il n'y a pas match. Parce que l'homme va faire en une journée, il va se reposer le soir, et le lendemain matin, il se réveille, il ne sent plus la fatigue.
Il veut dire que l'effort que l'homme fournit en une seule journée peut égaler l'effort que la femme fournira pendant les six jours.
C'est pas possible. Parce que quand l'homme est en train de fournir cette activité-là, les efforts qu'il est en train de fournir, la femme ne croise pas les bras. Hein. Elle est en train de travailler aussi.
Elle prépare, elle s'occupe des enfants.
Non seulement qu'elle prépare, mais elle est au champ avec l'homme. Quand l'homme est en train de faire les abattages là, l'abattage de gros arbres par exemple, qui est en train de faire les lagages? C'est la femme. C'est la femme qui est en train de faire les lagages. Et donc l'homme, quand il aura fini d'abattre l'arbre, la femme va continuer à travailler, la femme va lui préparer de la nourriture, la femme va continuer pendant les 6 jours où l'homme est en train de se reposer.
Madame, on ne peut pas faire de calcul comme ça. Alors on peut dire que pour autonomiser la femme, afin qu'elle contribue au développement communautaire, elle doit avoir accès aux ressources.
La première des choses, c'est que la femme doit être formée. C'est l'élément primordial. Elle doit être formée. Et en deuxième lieu, elle doit avoir accès aux ressources financières. Elle doit aussi avoir accès à la terre. Ce sont les 3 éléments capitaux pour que la femme arrive à être autonome. On ne peut pas parler de l'autonomisation de la femme tant qu'on n'a pas su régler les 3 problèmes.
Bien, voilà, ce sont là les 3 éléments importants pour que la femme soit autonome et qu'elle contribue au développement de sa communauté. Madame Brigitte Kanika, experte en développement, nous vous disons merci.
Merci à vous aussi.
Bonne journée.
Bonne journée.